Merci d'être avec nous. On est en osmose et on va parler théâtre aujourd'hui avec la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon et Harold David qui les représente. Bonjour Harold.
Bonjour.
C'est le prénom Harold ?
C'est le prénom,
bon,
tout à fait.
Bon alors, on va vous appeler Harold. Vous êtes coprésident, cofondateur aussi de cette fédération des
théâtres. Surtout coprésident, c'est pas moi le fondateur, d'accord. C'est Sylvain Canot-Clémente du Théâtre du Rempart.
Ah oui, c'est
voilà, j'étais un de ceux qui dans les premiers ont œuvré avec lui pour faire exister cette fédération. Oui.
D'accord. On peut se poser la question, pourquoi cette fédération ?
La fédération est...
Il n'y a pas assez d'associations de théâtre à Avignon ?
Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est né quand même à cause de la crise et la situation dans laquelle on s'est retrouvé il y a un an, là, au moment de l'annulation du festival Off d'Avignon, et que du coup, il a fallu trouver des solutions. Alors d'abord individuelles, et puis ensuite, on s'est dit que à plusieurs, ça serait peut-être moins pénible de trouver des solutions, et que donc du coup, se regrouper, mutualiser, échanger, confronter nos réalités, nos problématiques, etc., allaient nous permettre de travailler ensemble et donc d'essayer de trouver aussi des solutions ensemble. Donc c'est quand même ça, à la base, ce qui a fondé le démarrage de la fédération.
D'accord. Elle est née directement de cette crise sanitaire, en fait. Hein,
ah oui,
de la fermeture des théâtres,
oui,
en se disant, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Combien de théâtres ? Il y en a pas mal, déjà.
Alors maintenant, il y a 50 enseignes de théâtre, ce qui représente eh bien 80 salles, puisqu'il y a des théâtres qui ont plusieurs salles, donc voilà, on va comptabiliser ça en nombre de salles. Mmh. Et au total, on représente 38% en fait de la jauge de sièges disponible dans le festival. Donc voilà, ça commence
Je sais pas ce que voilà, si ça représente quelque chose ou quoi, parce que vous travaillez avec d'autres théâtres, d'autres associations, j'imagine, non?
Ouais.
Parce que
tout à fait, oui, mais disons que nous, nos adhérents, voilà, ils représentent 40%, enfin presque 40% de la jauge disponible sur le festival.
C'est pas mal. Alors là aujourd'hui, vous êtes avec nous. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que vous vouliez parler un petit peu des... On ne sait pas où on va, quoi. C'est ça le problème.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que...
ce festival voilà, off d'Avignon,
c'est... On est rendu le 5 avril. Le in commence pile dans 3 mois. Le off dans 3 mois et 2 jours.
Toujours.
Donc, voilà. On est effectivement dans un timing qui est quand même très étonnant. Non pas d'être à 3 mois, mais d'être à 3 mois dans la même situation qu'on était il y a 6 mois. Je crois que
c'est surtout qu'on ne sait toujours pas.
Oui, c'est ça, on sait toujours pas, mais on savait déjà pas il y a 6 mois, j'étais venu sur votre antenne à ce moment-là, et on savait pas beaucoup plus de choses que ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu dommage.
Monsieur Emmanuel Macron, notre président, a annoncé il y a quelques jours que le 15 mai, c'était une date où on allait peut-être envisager la réouverture des terrasses ou des bars et des restaurants.
Oui, de certains lieux culturels. C'est-à-dire
vous croyez que
pas,
ça va suivre, ouais, peut-être.
De pas tous les lieux culturels. Je veux pas obérer les chances de réussite des promesses du président de la République. Mmh. Il n'en demeure pas moins qu'on peut rester circonspect, effectivement, quant à réellement la faisabilité de la chose. Et néanmoins, de toute façon, dans le cas du festival Off, ça ne change pas grand-chose. Parce que, contrairement à des restaurants qui peuvent réouvrir en 48 ou 72 heures et se remettre en ordre de marche, les théâtres privés d'Avignon pour le festival Off d'Avignon, eh bien, ça ne peut pas marcher comme ça, parce qu'il y a une anticipation nécessaire à l'organisation de l'événement qui est inhérente au temps qui passe. Et surtout, pour que le festival puisse avoir lieu et que nous, on puisse accueillir des spectacles, il faut qu'on ait des compagnies qui veulent bien jouer dans nos salles et qui louent nos salles pour venir y présenter leurs spectacles. Or, des compagnies qui, au jour d'aujourd'hui, ne savent pas à quelle heure elles vont jouer, puisque nous, on ne peut pas leur dire quels vont être les créneaux disponibles.
Ni même si elles pourront jouer.
Voilà, ni même si elles pourront jouer, déjà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, si jamais elles pouvaient jouer, on ne sait pas combien de spectacles on peut accueillir par jour, puisqu'on entend dire qu'il faudrait qu'on laisse plus de temps entre les spectacles pour les mesures d'aération, etc. Donc, forcément, ça impacte le nombre de créneaux qu'on peut proposer aux compagnies. Donc, on ne peut pas proposer d'horaires compagnies. Et de plus, les compagnies, elles louent un service avec un nombre de sièges disponibles, ce qu'on appelle la jauge des spectacles. Or, pour l'instant, tous les scénarios qui sont venus jusqu'à nous par rapport à cela, c'est d'imaginer une reprise d'activité quand elle aura lieu, ce qui n'est donc toujours pas le cas aujourd'hui, et on n'a pas de date pour ce faire, qui serait avec une première phase à 35%. Donc, une compagnie, elle ne va pas louer 100% un créneau de théâtre pour bénéficier
De 30%,
de 30% de la jauge, voilà, puisque les recettes de billetterie comptent évidemment pour son équilibre
en
économique.
Partie, bien sûr, tout le monde n'a pas une subvention spéciale pour venir au festival, hein, ça c'est sûr.
Et nous, en tant que théâtre, eh ben, on peut pas rabattre nos prix de location de 70% à cause de ça, parce que nos charges fixes, nos frais qui nous permettent de, qui sont ceux qu'on est obligé de sortir quoi qu'il arrive pour ouvrir nos salles et les accueillir, eh bien, eux ne baissent pas de 70% nos loyers, nos emprunts, etc. Ne diminuent connu pas. Donc, on est dans cette espèce de d'étau qui se et de serpent qui se mord un peu la queue, où du coup, ça crée une situation de paralysie, ce qui est véritablement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est pas nouvelle, hein, parce que ça fait depuis le mois d'octobre que la fédération dit qu'on va arriver, si rien n'est posé comme cadre, à cette situation de paralysie. Et là, eh bien, malheureusement, on constate qu'on y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien très très peu de lieux peuvent signer des contrats, des compagnies ne veulent pas s'engager, et c'est bien normal dans ces conditions-là. Et donc, le risque de jeu de domino qui nous attend pour les 3 semaines, c'est que faute de visibilité, faute de cadre, eh bien, un grand grand nombre de compagnies décident tout simplement de ne pas y aller. Voilà.
Point. Le festival off est peut-être compromis alors.
Oui, on peut imaginer qu'il est compromis en tous les cas.
De toute façon, il est déjà compromis. Il n'aura pas la même ampleur.
Dégradé, voilà. C'est certain, mais dégradé jusqu'à quel point? Est-ce qu'un festival off, s'il reste 100 ou 200 ou même 300 spectacles à l'affiche, est-ce que c'est le festival off?
Est-ce que le public sera là aussi? Parce que si on a peur avec les mesures et tout ça, si on peut pas être plus de, je sais pas, il y a des salles qui ont quand même que 30 places, donc on va se retrouver quoi, 8, 10?
Tout à fait, oui. Oui, tout à fait.
C'est dur de jouer devant 8 ou 10 personnes.
Oui, alors ça peut arriver, enfin, mais au moins dans la réalité du festival, mais c'est pas un modèle dans lequel on peut se projeter. Uh-huh. Et surtout, ce qui est regrettable, c'est que bon, les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont. La pandémie est là, personne ne va nier cette réalité.
Non, puis comme vous disiez tout à l'heure, si vous louez la salle avec une jauge de 35, il faut quand même qu'il y ait au moins 15, 20 personnes. Oui, tous les soirs, fait, pour que la compagnie puisse rembourser un peu ses frais.
Mais même ça, c'est pas suffisant. Et de toute façon, dans une logique de prestation de service qui est celle que les théâtres ont avec les compagnies, il faut bien que la prestation corresponde à un potentiel maximal de jauge et donc la capacité d'accueil. Si cette capacité est diminuée, il faut qu'il y ait des compensations en face. Et nous, ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que, alors que ça a été annoncé pour plein d'autres festivals de France, un fonds de compensation, billetterie pour les producteurs et les compagnies n'a pas été mis en place, n'a pas été annoncé par le ministère de la Culture, et donc du coup, bah, ça empêche effectivement les compagnies de s'engager au jour d'aujourd'hui.
Par contre, plusieurs festivals ont déjà annoncé qu'ils annulaient.
Oui, bah, il y a beaucoup de festivals de musique actuelle en configuration debout qui ont déjà décidé d'annuler.
Ah oui, c'est foutu, quoi.
Voilà, parce qu'effectivement, ils ont considéré que le cadre qui leur a été donné, 5000 places assises, est totalement incompatible avec non seulement leur modèle économique, mais aussi l'esprit du festival et ce pourquoi les gens avaient envie de venir participer à l'événement, donc du coup ils ont préféré annuler.
Pour venir à Avignon, la cour d'honneur, ça va? C'est écoutez, en plein air, oui, si on respecte, là ça devrait aller, mais c'est le IN quoi.
Voilà, c'est le IN, et bon bah le IN effectivement dans sa dernière conférence de presse de lancement là le 24 mars a dit qu'il n'envisageait pas de scénario d'annulation, et il a bien de la chance de pouvoir se projeter dans un avenir aussi
radieux. Il a dit ça aussi l'année dernière, 15 jours avant de dire on est obligé d'annuler, hein, donc
certes,
ce sont des paroles qui n'engagent que lui quoi.
C'est sûr, mais pour l'instant voilà, il peut se le permettre, ouais. Effectivement il peut se le permettre pour une raison toute simple, c'est que d'abord il a la possibilité de jongler entre le plein air et les salles fermées, donc il peut aménager encore sa programmation, ce qui n'est pas du tout le cas pour la très grande majorité des salles dites confinées, enfin fermées, que sont les salles du œuf, d'une part, et puis effectivement il se pose pas trop la question de savoir comment ça va se passer d'un point de vue de capacité d'accueil, puisqu'on a appris qu'ils augmentaient de 30 représentations, je crois, l'offre faite au public, et qu'il y avait 20 000 billets supplémentaires.
Ah oui, pour compenser le manque de spectateurs dans la salle.
Tout à fait, voilà. Ouais. Donc, ils sont dans une dynamique qui
ils sert moyens, de faire
leurs intérêts, et ils ont aussi les moyens de se projeter dans un modèle économique où ils ne seraient qu'avec des jauges à 50, voire 70%.
Concrètement, pas le cas, encore une fois, donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous êtes venu aujourd'hui parler pour dire quelque chose, j'imagine.
Bien sûr. Ce qu'on attend, c'est que il reste encore 3 semaines avant ce que devrait être la date de clôture des inscriptions off. Donc, il reste encore le temps de prendre des décisions, voilà, politiques, économiques, structurelles. Donc, on attend ça avec un espoir qui s'amoindrit quand même à chaque jour qui passe.
Alors, enfin, concrètement, 3 semaines, on est une semaine de moins que les 4 semaines que nous a demandé Emmanuel Macron d'efforts pour tenir.
C'est
quoi.
Ça.
Donc vous aurez peut-être aucune réponse d'ici là.
Il y a de grandes chances. Néanmoins, l'espoir fait vivre. Et donc, en même temps, nous, on demande pas une date de réouverture. On se doute bien que, compte tenu de la situation sanitaire, c'est pas en plein pic de la troisième vague qu'on va nous donner des dates, alors que dans le creux de la deuxième, on n'en donnait pas plus. Donc, on se doute bien que c'est pas pour tout de suite qu'une date va être donnée. Mais il faut au moins que, même sans date, les conditions d'accompagnement de cette réouverture, de cette reprise, à partir du moment où on sait qu'elles vont être dégradées, soient mises sur la table. que les gens puissent se raccrocher à quelque chose. Sinon, on va se retrouver dans la même situation qu'un grand nombre de restaurateurs à la fin du premier confinement en 2020, qui n'ont pas réouvert tout de suite alors que c'était possible, tout simplement parce que économiquement, ce n'était pas viable et que nous, on est dans cette situation-là. Si économiquement, c'est pas viable, il y a un grand nombre de salles qui ne vont pas pouvoir ouvrir, tout simplement.
Oui, parce que le public l'ignore souvent, parce qu'on imagine le théâtre subventionné, mais en fait, certaines salles de théâtre, c'est des entreprises, tout simplement.
Ah, mais toutes les salles de théâtre, même les salles subventionnées.
Oui, mais elles ont moins de problèmes de trésorerie. Bah,
elles
quoi.
Ont d'autres problèmes. Ouais. Chacun a son problème spécifique en fonction de son statut
mais
et de son
modèle
économique.
Mais un théâtre indépendant, pur et dur, c'est une société, quoi.
Bah, dans le cadre du œuf, oui, on est vraiment dans la contractualisation entre deux entreprises, des producteurs et compagnies, et des théâtres qui offrent un service.
Donc si elle a moins de 2 ans de chiffres ou de, comment on appelle ça, de clôture de compte, ouais. Donc elle n'aura pas d'aide puisque c'est réservé à ceux qui ont plus de 2 ans,
oui,
c'est
ça.
Ah
oui, ceux qui ont eu le malheur d'acheter un théâtre l'année dernière ou des compagnies qui n'ont pas beaucoup tourné en 2019, eh bien, elles n'ont pas droit au fonds de solidarité pour les TPE et les PME, par exemple.
Parce que toute la période, on imagine aussi que les théâtres, pendant la période creuse, en dehors, ils sont fermés ou ils tournent ou comment ça se passe d'habitude?
En temps normal, vous voulez dire?
Oui,
bah, ça dépend des
hors
théâtres.
Hors festival, quoi.
Ça dépend des théâtres. Il y a des théâtres qui sont fermés pour une grande partie d'entre eux, oui, tout à fait, qui ont une activité que saisonnière, bon, comme il y a des hôtels ou des restaurants.
Donc pour eux, ça change pas grand chose, sauf pour la période.
Bah, si, ce qui change, c'est qu'ils n'ont pas de perspective d'amortir.
Ah oui, ils sont morts, quoi.
Évidemment, parce qu'il n'y a pas d'activité.
Ah oui, s'il n'y a qu'un mois d'activité, voilà. C'est sûr que...
Si ce mois-là, il saute, comme pour quand vous sautez les gens de montagne, là, du tourisme de montagne, ils ont eu leur saison perdue, elle est perdue. Nous, c'est pareil. Si on en a déjà une en 2020, si on a une deuxième en 2021, c'est impossible à remonter.
En ce moment, on
voit
aussi...
Juste quand même complètement à votre question sur ce que font les théâtres le reste de l'année. Donc, il y en a qui sont fermés, il y en a qui ouvrent régulièrement avec une activité de programmation toutes les semaines, etc. Et puis, il y en a d'autres, comme les miens, par exemple, qui ouvrent tout au long de l'année, mais de manière ponctuelle, essentiellement pendant les vacances scolaires ou sur des week-ends un peu festifs ou en se raccrochant à des événements, mais pas dans une continuité hebdomadaire. Donc il y a vraiment les trois qui ont lieu et qui se manifestent pendant...
Puis il y a ceux qui reçoivent les compagnies en résidence aussi.
C'est
aussi un revenu quelque part.
Ça concerne une grande partie des durées.
D'accord. Bon ben... C'est un peu chaud, quoi.
C'est un peu chaud, effectivement.
Les théâtres occupés, tout ça, vous soutenez? Comment vous
bien
comment
sûr,
vous,
oui,
vous
on soutient complètement.
Ça parce qu'on voit en ce moment des théâtres occupés à Paris, en province.
Il faut être précis
province,
quand même quand on parle des théâtres occupés.
La Factory, je crois, non,
qui est
occupée aussi.
Il s'agit de théâtres publics subventionnés. C'est-à-dire pas le type de théâtre de ceux qu'on représente au niveau de la Fédération des théâtres indépendants
d'Avignon.
Mais
c'est quand même un acte
mais c'est un acte
de résistance
qui est fort et qui est important parce que c'est pas seulement la réouverture qui est demandée, bien sûr. Ça, c'est ce qui a enclenché un peu le démarrage, parce qu'il y a une vraie incompréhension sur le fait que les théâtres soient fermés quand d'autres types de commerce ou d'établissement recevant du public pouvait l'être. Donc ça a été le point de départ. Bon, et après, se sont greffées là-dessus toutes les revendications qui sont l'expression d'une colère et d'un sentiment d'abandon de toute une partie la création et du spectacle vivant, notamment indépendant en France, qui sont mis sur le côté. Et aujourd'hui, l'enjeu de la réouverture des théâtres, c'est aussi la prolongation de la deuxième année blanche pour les intermittents, pour qu'ils puissent ne pas se retrouver dans le désespoir total arrivé à la fin août, et un certain nombre d'autres revendications qui vont avoir avec une revalorisation du statut de l'artiste dans notre société, et au-delà de ça, la nécessité de faire en sorte qu'il y ait un vrai plan de relance qui soit pensé, imaginé et acté par le gouvernement, parce que c'est pas parce qu'on va rouvrir les théâtres que l'activité va redémarrer aussi sec, parce qu'encore une fois, si les conditions d'accompagnement de cette rouverture dégradée ne sont pas mobilisées, eh bien d'abord ça va rouvrir très lentement quand ça va rouvrir, et surtout ce qui a été empêché par la crise sanitaire, c'est les processus de création, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les compagnies créent de moins en moins pour une simple et bonne raison, que créer quand vous savez pas si vous allez pouvoir montrer votre travail devant un public, devant des spectateurs, eh bien c'est pas évident et ça démotive complètement.
Par contre là on peut dire que le gouvernement a laissé les compagnies travailler puisque elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de produire, elles ont le droit de créer
tout à fait, c'est tout à son
en prévision de l'après quoi.
Et il faut lui reconnaître cette cette volonté-là. Sauf que ce qu'on constate, y compris dans nos salles qui d'habitude accueillaient des résidences, et on a accueilli au début beaucoup plus, c'est qu'il y a un épuisement. Pourquoi ? Parce que déjà, on se retrouve avec quasiment 2 saisons d'annulées. Donc ça veut dire que tous les spectacles qui existaient déjà avant la crise, ils n'ont pas trouvé de débouchés. Tous les gens, j'ai des artistes,
ah oui, c'est vrai.
J'ai des gens qui ont fait Avignon 2019, qui avaient plein
dernier
de dates.
Dernier festival en date
qui ont fait, avaient leur calendrier de dates rempli pour 2020, 2021, 2021, 2022. Toutes les dates qu'ils devaient faire avec cet investissement qu'ils ont fait en 2019, ils sont à zéro, ils n'ont pas pu faire les dates. Donc les dates sont en partie reportées, elles sont de plus en plus annulées, parce que pour un programmateur qui a vu un spectacle il y a 3 ans, se dire qu'il va le programmer encore dans un an,
l'actualité a changé, c'est plus de sens.
Et donc, du coup, on a des spectacles qui sont mort-nés.
Ça est foutu, quoi, en fait.
Voilà, qui sont mort-nés, qui vont devoir être enterrés pour laisser la place à d'autres spectacles. Et donc, du coup, toutes les créations qui ont été travaillées en résidence et tout ça, c'est pareil, si elles n'ont pas de débouchés pour pouvoir être montrées, y compris au Festival Off d'Avignon, qui est quand même un endroit de monstration, justement, des œuvres qui sont créées, si le festival est annulé, ça va encore reporter de 2 saisons la possibilité de diffusion de ces spectacles.
Puis encore et une fois, ça touche les créateurs, parce que celui qui a fait une reprise de Marivaux, Les Jeux de l'amour et du hasard, il s'en fout, lui.
Disons qu'il s'en fout. Son spectacle est là, son investissement est fait.
C'est une reprise d'un vieux spectacle, c'est pas une création qui est en lien peut-être avec des problématiques actuelles de la société, des choses comme ça, comme le théâtre vivant. Concrètement, vous proposez quoi ? Vous demandez quoi ?
Concrètement, on demande un certain nombre de choses qui sont de mettre en place, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, des mesures d'accompagnement à la reprise. Donc, concrètement, sur le Festival Off d'Avignon, ça veut dire la mise en place d'un fonds de compensation billetterie pour les producteurs et les compagnies à partir du moment où les jauges vont être dégradées. Ça, c'est la première chose qu'on demande. La deuxième, c'est si nous, théâtre, on est obligé de supprimer des créneaux pour des questions sanitaires, d'aération, de désinfection des salles, c'est que notre chiffre d'affaires soit compensé pour les pertes d'exploitation de fait qu'on va subir. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, la troisième, c'est qu'il y a un plan effectivement d'accompagnement massif à l'emploi artistique et technique pour que le risque que vont prendre les compagnies quand elles vont venir jouer ici à Avignon ne soit pas aggravé par un public qui sera pas forcément au rendez-vous, des restaurants qui seront pas forcément ouverts ou que les terrasses, etc. Donc des conditions dégradées et qu'il y a un soutien effectivement qui soit fait. Ça, c'est pour le off en tant que tel. Si le off doit être annulé, alors ce qu'on propose, je reviens à votre deuxième question, c'est d'imaginer avec des soutiens des formes de présence artistique qui ne sera pas le off, bien évidemment. Ça c'est impossible.
Dans la rue.
Mais dans les rues, dans les espaces publics, de pouvoir mettre en place des programmations spécifiques.
Dans les jardins, il y a des tas d'espaces.
Qui permettent quand même de faire en sorte que le lien ne soit pas totalement renvoyé à 2022 avec le public et avec les professionnels, les programmateurs qui viendraient sur Avignon. Donc nous, Fédération, on est déjà en train de travailler effectivement à ce scénario-là, dans l'hypothèse où on se retrouverait confronté. On sait bien que ça remplacera absolument pas le festival, mais le but, c'est vraiment de garder cet espoir en tête que non, Avignon ne sera pas... un espace, une terre brûlée en matière de culture indépendante au mois de juillet, et que même si le IN a lieu, il y a quand même une offre alternative, parce que le IN, c'est formidable, tout ce qu'ils font, mais ça correspond à un certain type de public, ça correspond à un certain type d'attente, et le OFF répond à d'autres besoins.
Disons-le clairement, s'il n'y avait pas le OFF, le Festival d'Avignon n'aurait pas du tout le même... Il n'y aurait pas tant de monde dans les rues, on serait pas du tout.
Ça, c'est évident.
C'est clair et net.
Il y a, je crois, les chiffres, sont parlants d'eux-mêmes. Il y a 300 000 spectateurs identifiés pour le Festival Off et, je crois, 120 000 billets pour le IN, ce qui veut pas dire 120 000 spectateurs. Donc,
On
n'est pas du tout sur les mêmes
échelles. C'est pas dans la même cour, comme dirait l'autre.
C'est ça. Mais c'est pas des cours opposés, c'est des cours qui sont complémentaires. C'est-à-dire que vraiment, ça doit marcher ensemble, ça doit coexister.
C'est du théâtre, oui, voilà.
Et dans tous les cas, c'est du théâtre. C'est juste que les attentes sont pas les mêmes des uns et des autres.
Non, parce que c'était juste pour une image, parce que s'il n'y avait que le IN et que le OFF devait être annulé, ça serait un peu vide, Avignon, quand même. On serait pas du tout dans la même effervescence
avec
le IN et le OFF ensemble, comme d'habitude, quoi. Et s'il est annulé, pour la deuxième fois, ça serait la première fois que ça se produit, je crois, non?
Oui, parce que pour l'instant, les seules annulations qu'il y a eu, c'est 2003.
Avec les intermittents.
Encore, le OFF a été semi-annulé. Enfin, il n'a pas été annulé complètement. Le IN, oui, mais le OFF, non. Et 2006, qui est une autre crise, ça n'a pas été vraiment annulé. Il y avait des tensions entre les deux structures qui coordonnaient à l'époque le OFF.
Et la deux annulations consécutives, je crois que c'est... À part peut-être pendant les guerres, mais c'est jamais vu, quoi.
On va avoir, enfin, on les mesure pas bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est une sclérose du secteur de la création indépendante pour au moins les 3 à 4 années à venir. C'est un certain nombre d'entreprises avignonnaises, donc de théâtre, qui vont être en très grande difficulté pour tenir jusqu'à l'année suivante s'ils sont pas soutenus et accompagnés pour passer cette crise.
Puis les intermittents, il faut leur refaire une année blanche parce que sinon ils sont foutus aussi.
Ça fait partie des évidences, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on empêche, pour des raisons sanitaires, de travailler, de faire leurs heures pour acquérir leur statut, on ne peut pas ne pas les accompagner pour pouvoir faire la jonction avec la reprise.
Évidemment.
Sinon, il y a personne qui sera en capacité de reprendre. Et aujourd'hui, on note quand même un grand désespoir qui commence à traverser l'ensemble de la profession, de toutes les professions connexes qui sont interdépendantes de l'activité du spectacle vivant. On parle des intermittents, des artistes, des techniciens, mais par exemple, à Avignon, il faut savoir qu'il y a des milliers de jeunes, par exemple, qui, au mois de juillet, travaillent notamment dans les théâtres ou pour les compagnies, qui font leur job d'été, dans les restaurants, dans toutes les choses qui découlent directement.
On voit chaque année, même le IN, passer des annonces pour chercher des personnes pour les billetteries, tout ça, donc ça fait des jobs.
Plus, autant l'année dernière, il y a quand même pas mal de lieux, j'en fais partie, qui ont pu s'appuyer sur le levier du chômage partiel parce qu'on avait déjà des contrats ou des promesses de contrats passées avec un certain nombre de nos personnels. Là, aujourd'hui, on a des promesses de rien du tout puisqu'on n'a rien de prévu. Aujourd'hui, on se parle. Donc socialement, la casse va être aussi très très importante et pas seulement économiquement.
Bon, bah écoutez.
Voilà, c'est pas très. J'ai conscience que
c'est dommage. C'est dommage parce que les beaux jours arrivent, il fait super beau, on a trop envie d'aller voir des trucs.
C'est ça.
Puis on est là. Malheureusement, confinement.
On est dans une situation qui est assez triste parce qu'encore une fois, nous à la fédération, on pense que elle aurait pu être anticipée différemment. On aurait pu construire un off exceptionnel dans des conditions dégradées de manière efficace et pouvant servir l'intérêt du plus grand nombre. Ce n'est pas le choix qui a été fait. On constate une stratégie du pourrissement de la situation.
J'ai plutôt l'impression qu'ils savent pas quoi faire parce qu'on sait pas comment évoluer. Regardez l'arrivée des variants là qui tout d'un coup fait passer les taux de contamination à 59 000 au lieu de 25 000.
Excusez-moi, mais je trouve que c'est une fausse excuse de s'appuyer sur l'imprévisibilité de la pandémie.
Du coup, on peut pas prévoir, quoi.
Mais si, il y a des choses qu'on peut prévoir. Je suis désolé, la reprise d'acte. Ce qu'on peut prévoir, c'est une date, de savoir quand est-ce que ça va aller réellement mieux, puisque finalement, cette date est repoussée avec l'apparition des variants.
Là, c'était prévu le 15 avril.
Oui, non, mais
l'augmentation
de
l'épidémie nous a décalé.
Je ne parle pas de la date, je parle des conditions d'accompagnement, de réouverture après la pandémie, l'activité. Ça, on peut le prévoir. Ça aurait dû être prévu. Et dans le cadre du OFF, c'est très facile à prévoir. Encore une fois, il y a deux mesures principales à prendre, enfin trois. C'est un, comme je l'ai dit, un fonds de compensation billetterie pour les producteurs et les compagnies. Deux, un fonds d'indemnisation pour les théâtres s'ils perdent des créneaux d'exploitation. Et trois, un plan massif pour l'emploi et doublement du fonds PEPS. Je veux dire, c'est trois mesures très concrètes qui pourraient être annoncées. C'est juste des choix politiques et des choix d'arbitrage financier pour dire, voilà, effectivement, quand ce sera possible, alors on sera au rendez-vous et on le sera de cette manière-là. Mais aujourd'hui, on n'a ni date, ni mesure d'accompagnement. Et c'est ce deuxième point qui est grave. Parce que ça, je suis désolé, c'est prévisible, surtout quand le ministère de la Culture a obtenu un plan de relance à hauteur de 2 milliards d'euros pour le budget 2021 au niveau de son budget, hein, c'est ça, 2 milliards d'euros, donc 426 millions d'euros pour le spectacle vivant. Or, aujourd'hui, comment ces 426 millions d'euros vont être dépensés et vont être fléchés pour la reprise, personne ne le sait.
Non.
Je ne suis même pas sûr que le ministère le sache lui-même.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, la ministre Roselyne Bachelot, elle nous a fait des jolies annonces, mais elle n'avait pas vraiment de sens. Hein. C'était un certain temps, dans pas longtemps.
Oui, c'est ça. Encore une fois, fédération, on ne fera jamais le procès aux élus et au gouvernement d'avoir des incertitudes sur les dates. Et ça, vraiment, leur faire reproche. Mais par contre, encore une fois, de comment être au rendez-vous une fois que la crise sera passée, ou alors s'ils considèrent que la crise va pas être passée, c'est pas la peine de nous annoncer la fin du tunnel pour le 15 avril, pour le 15 mai, etc. Autant dire qu'il n'y en aura pas, et dans ce cas-là, on change de modèle social, économique et de mode de vie. Mais si on nous promet effectivement la fin du tunnel, alors on est en droit de savoir comment est-ce que l'État, et en l'occurrence pour ce qui nous concerne le ministère de la Culture, sera au rendez-vous des acteurs du spectacle vivant pour pouvoir redémarrer leur activité.
Bien, bah écoutez, le rendez-vous, moi je vous laisse la porte ouverte, hein, dès que vous avez des nouvelles.
Ah bah, on sera les premiers à venir en témoigner sur votre antenne.
Et puis en attendant, bah, bon courage, puis bah, répétez, travaillez, prenez ça, de la peine, comme
ça. On se bat.
Mais franchement, je sais pas comment vous faites, parce que c'est même pour le moral et tout, c'est hyper compliqué, parce qu'on sait pas, un jour c'est oui, un jour c'est non.
Il y a déjà des théâtres qui ont décidé.
Ça casse en permanence, quoi.
Oui, c'est ça, puis il y a déjà des théâtres qui ont décidé de ne pas ouvrir, par exemple.
Ah oui, déjà.
Dans notre fédération, on en a quelques-uns, c'est pas la majorité encore au jour d'aujourd'hui, mais c'est
bah c'est que ça approche. C'est vrai que là, 3 semaines, ça devient compliqué. Trois mois, pardon, ça devient compliqué pour se dire. Il faut combien? Je sais que c'est presque une année sur l'autre. Hein. Des fois, c'est 7-8 mois quand même. Hein.
Là, normalement, on est à un moment où on finalise nos programmations et on s'inscrit dans le catalogue du HOF pour faire en sorte que tout soit en place. Personne aujourd'hui, enfin très peu à ma connaissance, sont en capacité de pouvoir s'inscrire, tout simplement parce que pour s'inscrire, il faudrait savoir ce qu'on programme. Ben comme on ne le sait pas pour toutes les raisons que j'ai explicitées, on est dans une situation de blocage, de paralysie, et voilà, qui a à voir avec ce que j'appelle moi la stratégie du pourrissement et du laisser aller pour attendre de se prendre l'iceberg, et puis une fois qu'on y sera,
on verra une fois qu'on sera devant le dedans, voilà.
Là, peut-être, on sortira des mesures d'urgence, de secours, de machin, etc. Mais franchement, il y avait une
L'hôpital dit la même chose.
Hein. Oui, tout à fait. Mais non, mais c'est ça fait un an quand même qu'on ne se sent pas stigmatisé particulièrement hein, dans le spectacle vivant. On est dans la même charrette que malheureusement un grand nombre
plusieurs services, quoi, voilà, bien
de
sûr.
Services publics ou d'entreprises qui sont affectées directement par les mesures sanitaires. Mais voilà, bon, ça n'empêche pas d'être triste quand on a la sensation qu'on aurait pu faire les choses autrement avec un tout petit peu de courage et d'anticipation.
En tous les cas, on espère que ça va repartir. Et que quand ça va repartir, le public, lui, il attend parce que ça commence à nous manquer quand même, hein, sérieusement.
Oui, c'est sûr,
les moments
de convivialité, ça manque à nous, ça manque aux artistes.
C'est clair et net.
C'est sûr que la frustration est grande.
D'ailleurs, ça se voit puisqu'il y a des petits trucs un peu clandestins qui se font à droite à gauche, même des dîners apparemment chez les personnes un peu aisées. Donc c'est que ça commence à vraiment nous manquer. Harold David, merci beaucoup.
Merci à vous.
La Fédération des théâtres indépendants d'Avignon avec 40% donc des salles, hein, c'est ça.
C'est ça.
D'Avignon. Puis revenez quand vous pouvez, pour nous donner un petit peu
Disons qu'au mois de mai, je reviendrai avec soit des très bonnes nouvelles, soit des très mauvaises. Parce qu'au mois de mai, quand même, on va être obligé d'acter un peu les choses, quoi qu'il arrive. Soit par
oui, il y a un moment, faut
choix,
décider, quoi.
Ou soit par constat voilà, d'une réalité.
Bon, après le 15 mai, allez.
Après le 15 mai, oui, je pense que... Enfin, même entre le 1er et le 15 mai, on sera fixé, je pense.
J'espère. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.